Radio Kapi.
Bienvenue à ce journal au micro Lievin Bouinga. Affaire transfert des jeunes désœuvrés à Kanyamakassese. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi lève le ton. Monseigneur Fulgence Muteba dénonce ce qui, d'après lui, paraît comme un enrôlement forcé. Vous allez l'entendre dans ce journal. Le commissaire à l'Union européenne à Goma, les Narcisses, c'est de lui qu'il s'agit. Séjourne depuis mardi dans cette ville du Nord Kivu. Sur place, il s'entretient avec le gouverneur de province, les responsables de la MONUSCO et les chefs de quelques agences et ONG. L'Organisation mondiale de la santé s'en va en guerre contre l'épidémie de monkeypox à Mbandaka. Elle vient de lancer un projet de 6 mois pour la réponse à l'épidémie qui sévit la province depuis 2022. Dans ce journal, les explications du point focal de monkeypox à l'OMS Équateur. Dr Briam Ajong est l'invité du journal. Encore une fois, bonjour. Dossier transfert des jeunes désœuvrés à Kanyamakassese. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi lève le ton. Monseigneur Fulgence Muteba dénonce ce qui, d'après lui, paraît comme un enrôlement forcé, notamment pour des jeunes en rupture des liens familiaux qui, contre leur gré, sont amenés à Kanyamakassese. Monseigneur Fulgence Muteba est au micro de Jean Gandou.
Je voudrais ici dénoncer cette opération qui consiste à enrôler des forces des jeunes de la rue, des enfants qui sont en rupture familiale, et qu'on amène des forces à Kanyamakassese en commettant des graves violations contre leurs droits. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dans la rue qu'ils n'ont plus de droits. Et cette opération s'observe à Kasumbalesa, à Lubumbashi, à Likasi et même à Kolwezi dans le Lualaba. Et il s'agit d'une opération complètement irrégulière que nous condamnons.
Entre-temps, des jeunes de Mbandaka, dit Kuluna, ont été évacués, direction toujours Kanyamakassese. Ils sont au nombre total de 149. Il s'agit de jeunes bandits qui sèment la terreur dans la ville. Ils sont capturés depuis 2 semaines lors de la traque des Kuluna. Ils constituent la première vague mise à la disposition du service national. Toutefois, l'ONG APEE dénonce la présence des mineurs parmi eux. Paul-Richard Malengela pour le reportage.
Déjà 325 jeunes d'Ikuluna sont arrêtés et la plupart gardés à la prison centrale de Mbandaka depuis le début de leur traque. Après l'identification, 140 ont été évacués ce lundi par avion à Kanyamakassese via Kinshasa. Car indique le ministre provincial de l'Intérieur et gouverneur intérimaire Crispin Poutou, c'est à l'initiative de l'autorité provinciale que l'Équateur est en partenariat avec le service national en vue de la reconversion de ces jeunes criminels en acteurs de développement. Certes, plusieurs Mbandakais saluent l'initiative qui les sécurise. Cependant, d'autres déplorent l'arrestation de nombreux innocents. De même, l'ONG APE, qui encadre des enfants, dénonce la présence de 30 mineurs parmi ceux qui sont évacués. Son coordonnateur, Marcel Toté, s'indigne.
Le ministre faisait un intérim du gouverneur. Il a décidé que tout le monde puisse aller à l'aéroport. Et même quand nous sommes arrivés à l'aéroport, à part le premier enfant qu'on a fait sortir, les autres, on avait refusé notre accès à ces enfants. Donc, de toute façon, c'était pas bon. On a exprimé notre indignation pour dire que non, c'est pas comme ça, ça marche.
Le gouverneur intérimaire reconnaît quelques faiblesses tactique dans l'opération, mais Crispin Poutou nie le transfert des Kuluna mineurs.
J'ai grandi et j'ai créé aussi les lois de la République. Des Kuluna mineurs sont transférés à l'ergie naturelle. Là, c'est groupe. On a transféré qui est le majeur.
Notons que 7 autres enfants sont encore gardés à la prison centrale. Ils attendent d'être fixés sur leur sort alors que la traque se poursuit dans la ville. Mbandaka, prochain Malengela, Radio Okapi.
À propos justement de ces transferts des jeunes délinquants appelés Kuluna de l'Équateur et autres parties du pays vers Kanyamakassese dans le Haut-Katanga, dans le Haut-Lomami, ainsi que la polémique qui enfle le numéro 1 du service national explique, le général Kasongo Kabuit qui dirige ce centre précise qu'en dehors des jeunes délinquants, beaucoup d'autres jeunes volontaires se font aussi enrôler pour rejoindre le camp des bâtisseurs dans le but d'apprendre un métier et être utile à la société. On écoute le général Kasongo Kabuit qui s'adressait lundi à la presse de l'Équateur peu avant le départ des 200 jeunes à destination de Kanyamakassese. Ses propos sont sélectionnés par Jean Gandou.
Lorsque nous venons prendre ceux de l'Équateur, lorsque vous parcourez leurs fiches d'identification, tous ne sont pas originaires de l'Équateur. Lorsque nous prenons ceux du Katanga, tous ne sont pas originaires du Katanga. Kinshasa, la même chose. Ils ne s'attaquent pas à une province de manière exclusive pour que certains disent non, voilà, on est en train de vouloir apurer notre jeunesse. Ça, c'est un discours politicien. Ce n'est pas ça le service national. Je voudrais encore préciser que nous sommes dans la lutte contre la délinquance juvénile, nous sommes dans la lutte contre la criminalité. On n'attend pas que les criminels eux-mêmes viennent ou complètent, donc on doit les traquer. En dehors des délinquants, il y a des jeunes volontaires qui s'adonnent. Ici à l'Équateur, plus de 50% sont des jeunes volontaires qui sont convaincus qu'au service national, il y a un avenir pour les jeunes. C'est pour démentir ceux qui pensent que Kanyamaka, c'est système roi, ou le service national, c'est un lieu de torture. Ça, ce sont des discours politiciens. Nous disons aux provinces qui sont en train de tergiverser ou de chercher à politiser la chose. Aujourd'hui, nous allons partout où nous allons, ils font des caprices. Que demain, ils ne se plaignent pas. Lorsque le service aura atteint, par exemple, 50 000 bâtisseurs, vous vous retrouvez avec votre province, vous n'avez que 300, que vous ne vous plaignez pas. Nous donnons la même chance à toutes les provinces là où nous allons.
Le commissaire à l'Union européenne à Goma, Lenarcic, c'est de lui qu'il s'agit, séjourne depuis hier mardi dans cette ville du Nord Kivu. Notez que Lenarcic a eu des entretiens avec le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani, les responsables de la MONUSCO et les chefs de quelques agences et ONG. Dans l'avant-midi de ce mercredi, le commissaire à l'Union européenne a visité les déplacés du site de Mbushagala dans le territoire de Nirangongo, bien avant de se rendre à l'hôpital Sebeka Ndosho pour réconforter les déplacés malades ou blessés. Il est prévu un point de presse à l'aéroport ce même mercredi avant de quitter Goma. Je vous signale que le but annoncé de ce voyage de Lenarcic à Goma est de susciter davantage des actions sous forme de solidarité de tous les autres acteurs internationaux pour encourager les bailleurs internationaux et les pays les plus riches à contribuer selon leurs moyens et à accroître leur assistance humanitaire en faveur des personnes déplacées en République démocratique du Congo. Hausse vertigineuse du prix du litre d'essence au Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Beni, de 3 500 francs congolais, il est passé à 10 000 francs, voire 12 000 dans certains coins de vente, à la base l'arrêt par les opérateurs économiques il y a 10 jours de l'importation des marchandises à partir de Kasindi Libira, un poste frontalier avec l'Ouganda situé à 90 km de la ville de Beni. Même si la mesure a été levée depuis lundi, les pétroliers parlent d'une carence de produits pétroliers dans les villes de Beni et Butembo. Le point avec André Kitenge.
Trouver un litre d'essence à Beni depuis ces deux derniers jours devient un casse-tête pour les conducteurs des engins roulants. Toutes les stations-service sont restées fermées depuis lundi. Du coup, c'est la spéculation qui règne chez les revendeurs de carburant communément appelés Kadhafi. Ici, le litre qui se vendait à 3 500 francs congolais se négocie entre 10 000 et 12 000 francs congolais. Les opérateurs économiques du secteur pétrolier expliquent cette situation par la carence des produits pétroliers dans la ville à la suite de la grève des opérateurs économiques au poste frontalier de Kasindi-Loubiria, par où passent ces produits. Ces opérateurs économiques protestaient contre la tentative du gouvernement ougandais de délocaliser le marché de poissons salés de Kasindi vers l'Ouganda voisin. Pourtant, cette grève a été levée lundi dernier après la rencontre entre les opérateurs économiques et l'administrateur du territoire, ce qui a conduit à la reprise des activités d'importation et d'exportation au poste frontalier de Kasindi-Loubiria. Une situation qui affecte déjà le social de la population. C'est le cas notamment du prix d'une course à moto qui vient de passer de 1 500 francs congolais à 4 000 francs congolais, voire 5 000 francs congolais sur certains trajets.
Lutte contre les conflits coutumiers, un comité chargé d'arbitrer ces conflits vient de voir le jour dans la chefferie de Pandourou, dans le territoire de Mahagui. Les membres qui pilotent cette structure ont été élus mardi à Ngoté, à environ 150 km de Bounia, ce à l'issue d'un atelier organisé par la Division provinciale des affaires coutumières avec l'appui de la MONUSCO, un projet qui vise à régler pacifiquement les différents conflits au lieu de recourir à la violence. Le point avec Jean-Claude Loki-Dillet.
Les membres de cette structure sont en majorité des chefs coutumiers dont le rôle est de contribuer à la consolidation de la paix à travers la prévention des conflits. Il s'agit entre autres des conflits de limites et des successions de pouvoir. Emmanuel Agnonga, le président élu, est conscient de la tâche qu'il attend.
J'aurais besoin des gens qui m'ont précédé, qui peuvent m'aider. Comme ça, je peux bien assumer cette tâche. Je ne peux pas aussi laisser les jeunes, surtout les conseillers, lire beaucoup de textes juridiques. Comme ça peut les aider aussi à devenir des hommes comme nous autres.
Des conflits qui parfois entraînent des tensions communautaires, ce qui vient casser l'élan de cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Jean Bosco Abiandroit est le chef de la division provinciale en charge des affaires coutumières.
Ce cas-là intervient quand? Lorsque le chef qui était là, il est soit décédé, après sa disparition, soit c'est son frère, soit c'est ses enfants qui vont maintenant chercher à tirer des conflits entre eux pour chercher à succéder à leur père. Ce qui pousse à la violence. Imaginez si les deux enfants viennent maintenant chercher à succéder à leur père et qu'il n'y a pas un organe pour réglementer les procédures pour être sélectionnés. C'est un problème.
Ce projet s'appuie sur le plan de transition de la MONUSCO qui est appelé à contribuer à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État. D'un côté, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Dossier spoliation des parcelles des agents de la SNCC, Skindou, par le service des titres immobiliers. Ces agents dépourvus demandent l'implication de l'Assemblée provinciale du Maniema. Demande exprimée hier mardi en présence du député provincial élu de Kindou, Ngongo Kitenge Constantin. Après avoir franchi toutes les étapes sans obtenir gain de cause, ces agents réclament qu'ils soient remis dans leurs droits. On écoute leur porte-parole, Kimwanga Kisimba. Il est au micro de Florence Kiza Luba.
Vous savez, nous, les petits peuples, nous constituons un groupe de 100 voix. Dans notre pays, vous savez, il n'y a pas de justice. Et ça, c'est le président lui-même qui l'a dit, la justice est malade. Et on peut marcher sur nos droits comme on veut. Notre problème, c'est que la société nous avait vendu des parcelles, au camp Makuta précisément. Depuis l'année 2007, l'année de leur vente, des propriétés exclusives des agents SNCC. Maintenant, les conservateurs des titres immobiliers, ils se donnent les kilos d'entrer dans ce propriété privée et de morceler ces parcelles appartenant aux agents. Les députés, ce sont nos élus. Nous sommes les gens de 100 voix. C'est eux qui ont la parole, qui peuvent voir les autorités compétentes et pour leur expliquer ce qui se passe. Donc l'injustice qui s'est faite dans notre province. À l'heure où je vous parle, le conservateur, il a déjà borné. Il a déjà vendu aux tierces personnes les parcelles des agents. Il a borné, il a déjà vendu. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est la vente pure et simple. Les maisons du camp Makuta, c'est autour de 70 maisons. La SNC, en vendant ce parallèle, elle a remis à chaque agent un croquis. Tout le monde, ce n'est pas seulement ici à Kindou, partout ailleurs.
Du côté du Kassai oriental, les travaux d'érection du nouveau pont qui sera jeté sur la rivière Lubi se poursuivent normalement à Kenakuna, dans le territoire de Kabeakamwanga. Les ingénieurs de l'office de route sont à pied d'œuvre et ils démontent l'ancien pont de 25 tonnes qui s'est effondré le mois dernier pour le remplacer par le nouveau pont de 45 tonnes qui est déjà sur place. Tous ces travaux prendront 45 jours, précise l'office de route. Explication Esther Ndalafina.
Dans 45 jours, le nouveau pont de 45 tonnes sera opérationnel pour les piétons et les motocyclistes sur la rivière Lubi à Kenankuna dans le territoire de Kabeakamwanga. Les ingénieurs de l'office des routes sont à pied d'œuvre, comme l'explique ici ingénieur Frédéric Jamal.
Il y a le démontage de l'ancien pont, il y a aussi le montage du nouveau pont et aussi la réadaptation de superstructures. Alors nous avons voulu jeter un nouveau pont qui serait de 45 tonnes. Mais pour cela, les structures qui soutenaient l'ancien pont étaient moins large, alors il fallait élargir la structure qui va soutenir le nouveau pont. On est à pied d'œuvre.
Sur place, le nouveau pont est en plein montage. D'après ingénieur Frédéric Jamal, les travaux prendront 45 jours.
Déjà, nous avons travaillé à un temps vraiment record. Nous avons fait les études. Il était prévu que dans 45 jours déjà, le passage pour les piétons et pour les motocyclistes soit déjà ouvert. Tous les moyens sont mis à notre disposition pour que finalement nous réussissions notre travail. Mais contrairement pour le véhicule, il faut ajouter encore 30 jours. Pourquoi ? Parce que...
Pendant que les travaux se poursuivent, les usagers de la route, quant à eux, demandent aux autorités d'appuyer l'office des routes pour que ce dernier respecte le délai imparti pour ces travaux. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, cela fait plus de 10 jours que l'on est sans nouvelles du journaliste Yeri Bokoum, promoteur de la Web TV. Il a été enlevé le 8 juin dernier par des hommes en civil après avoir couvert la veille une manifestation d'opposants aux autorités de transition. Ses proches n'ont eu aucun contact avec lui depuis. L'Union des journalistes de la presse libre africaine demande sa libération.
L'invité.
L'Organisation mondiale de la santé vient de lancer ce lundi à Mbandaka un projet de 6 mois pour la réponse à l'épidémie de monkeypox. La maladie sévit notamment à l'Équateur depuis 2022. Pourquoi ce retard? Paul Richard s'entretient avec le point focal de monkeypox à l'OMS Équateur, le docteur Briam Ajong. Suivez.
Docteur Brian, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dit que c'est depuis 2022 que l'épidémie a été déclarée. Pourquoi ce retard de réponse à cette épidémie?
Son Excellence, le ministère national de la Santé, a déclaré l'épidémie en décembre 2022. Il y a eu un premier plan de réponse qui a été élaboré, mais peu de financements ont été mobilisés autour de ce premier plan de réponse. Le plan de réponse a été révisé dans le mois de février 2024, là où il y a beaucoup d'aspects qui ont été ajoutés au plan.
Lesquels?
Il y a des aspects de la vaccination, de prévoir la vaccination contre Mpox. Il y a des efforts qui sont faits pour l'approbation et introduction des vaccins. Il y a aussi des aspects de la transmission sexuelle qui sont des nouvelles modes de transmission qui n'avaient pas été identifiés en RDC et ne figuraient pas dans le premier plan. Dans le deuxième plan aussi, nous avons assuré que nous prenons une approche, une seule santé, d'intégrer la santé humaine avec la santé animale et l'environnement, vu que l'impox est un zoonose, ça vient des animaux, et aussi d'intégrer d'autres programmes du ministère de la Santé, tels que le programme national de lutte contre le sida et les IST et le programme élargi de vaccination. Donc, ces nouvelles ajouts ont été intégrés dans le nouvel plan qui a été révisé en février et finalisé en mars de cette année. Et c'est là OMS a pu, à travers l'USAID, mobiliser un financement.
À quelle hauteur?
Au total, nous avons mobilisé $1 million pour une réponse dans la province de Chopo et la province de l'Équateur.
En ce qui concerne la province de l'Équateur, pratiquement sur le 1 million, c'est combien?
Pour les activités ici dans la province de l'Équateur, c'est autour de $590 000.
Quels sont alors les défis auxquels vous êtes confrontés pour la mise en œuvre de ce projet?
Oui, avec OMS et en appui avec le ministère de la Santé, précisément la DPS, ici en Équateur, dans la réponse contre le Mpox. Certains défis majeurs que nous retrouvons sur le terrain, c'est d'abord l'accès physique. Comme vous le savez, toutes les zones santé ici en Équateur sont affectés. Donc, un des défis majeurs, c'est d'arriver aux différentes zones santé où nous avons un accès difficile, mais il y a des cas de Mpox. Une autre difficulté est, comme la DPS a soulevé, la province fait face à plusieurs urgences de santé publique, notamment les différentes épidémies antérieures de la MVE, mais aussi la fièvre jaune et d'autres maladies à potentiel épidémique, comme la rougeole. Il y a aussi un grand souci de connectivité d'Internet et couverture de réseaux téléphoniques, surtout dans les zones santé à l'intérieur du province. Donc, tout cela pose aussi des difficultés pour la surveillance épidémiologique de la maladie.
La province de l'Équateur compte 18 zones de santé. Il y a aussi la zone de santé de Monyeka qui est en train d'enregistrer beaucoup de cas de décès aussi. Pourquoi est-ce que cette zone de santé de Monyeka n'a pas été prise en compte?
Comme j'ai dit tantôt, les zones de santé ciblées sont les zones de santé qui sont reprises dans le plan intégré de préparation et réponse contre Mpox au niveau national, et c'était basé sur les tendances épidémiologiques au niveau national. Mais nous sommes reconnaissants qu'il faut encore plus de ressources pour arriver aux différentes zones santé. C'est pour cela que OMS est toujours en train de travailler avec des bailleurs et des ministères de la Santé au niveau national pour mobiliser les ressources additionnelles pour pouvoir répondre dans d'autres zones qui n'ont pas été ciblées dans le projet actuel.
Enfin, qu'est-ce que vous attendez de la population pour la réussite de ce projet?
Pour la population, leur engagement dans la réponse, d'assurer que cette réponse contre la maladie des Mpox est le plus effectif et que participatif avec les différentes couches de la population. Et ensemble, nous pouvons interrompre la chaîne de transmission et réduire la mobilité et la mortalité des Mpox ici dans la province de l'Équateur.
Docteur Brian Adjong, Radio Capit vous dit merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Il a été concocté grâce à l'expertise de Martin Sebujangwe, Élisée Chikota et Dieudonné Nyangasa. Au revoir.